Les archives d'Afrique. Alain Foka.
Bonjour à tous et bienvenue dans ce magazine consacré à l'histoire contemporaine de l'Afrique à travers ses grands hommes. Nul n'a le droit d'effacer une page de l'histoire d'un peuple, car un peuple sans histoire est un monde sans âme.
Pour moi, Ben Belal, elle est décidée à œuvrer dans le bien. Dans le bien du pays, dans le bien du peuple, dans le bien de tous. Il est de mon devoir, en tant que militant, de l'appuyer, de l'aider dans cette tâche.
Ce soutien indéfectible au président Ahmed Ben Bella, c'était avant que l'exercice du pouvoir après l'indépendance de l'Algérie n'entame définitivement le rapport de confiance qui existait entre lui et le chef de l'État. Désormais, en cette année 1965, le conflit est ouvert et les couteaux tirés. Le ministre de la Défense se sent menacé. Il doit réagir au plus vite. Mais comment ? Suite de notre série d'archives d'Afrique spéciale, Wari Boumdiène, le second président de la République algérienne. En ce mois de juin 1965, le climat politique au sommet de l'État algérien est des plus lourds. Entre le chef de l'État et son ministre de la Défense, le colonel Wari Boumdiène, celui qui tient l'armée et quelques ministères clés, la confiance est rompue. Pour réduire l'influence de Wari Boumdiène sur l'armée, Ben Bella va nommer en mars 1964 Tahar Sbiri à la tête de l'État-major. Erreur. Boumdiène, sur le qui-vive, s'entend avec l'homme censé le neutraliser et conserve la main sur l'armée. Seconde erreur du président algérien, en juillet de la même année 1964, Ben Bella demande au préfet de lui adresser directement leur rapport en ignorant le ministre de l'Intérieur, Médégri, qui démissionne en signe de protestation. Et lors d'un remaniement ministériel en décembre 1964, il réduit considérablement les attributions de shérif Belkacem, un des membres du clan d'Oujda, ministre de l'Orientation, qui a sous son autorité l'information, l'éducation nationale et la jeunesse. Le président de la République, déjà chef du gouvernement et secrétaire général du Front de Libération Nationale, le FLN, s'attribue les portefeuilles de l'Intérieur, des Finances et de l'Information.
Je ne suis pas un dictateur et je n'ai pas du tout vraiment de vocation à l'être. Mais je suis pour un régime révolutionnaire. Et un régime révolutionnaire a besoin d'un centralisme révolutionnaire. Contrôlé, mais un centralisme révolutionnaire, tout simplement.
Lardar Brahimi, ancien ministre des Affaires étrangères.
En réalité, le vide politique s'est fait autour de Ben Bella très rapidement. Ben Bella était le seul qui ne voyait pas qu'il y avait un fossé qui se creusait entre lui et sa base politique. Sa base politique, c'est quand même le colonel Boumdiène et son armée.
Mai 1965. Alors que le colonel Boumdiène représente l'Algérie à la conférence des chefs de gouvernements arabes au Caire, le président Ben Bella annonce qu'il retire à Abdelaziz Bouteflika, autre membre du clan d'Oujda, son portefeuille de ministre des Affaires étrangères. Bouteflika alerte aussitôt le colonel Boumdiène. Il rentre immédiatement à Alger et réunit ses compagnons du clan d'Oujda qui viennent rejoindre les officiers Chaoui avec entre autres Tahar Sbiri, Saïd Abid, Ahmed Draya, Salah Soufi, Abdelaziz Zerdani. À partir de cet instant, ils savent à quoi s'en tenir. Ils sont voués à être écartés. L'épreuve de force est donc désormais inévitable. Début juin 1965, le clan d'Oujda, rejoint par les commandants des régions militaires, enchaîne les réunions secrètes sous la férule du colonel Boumdiène. Ils discutent de la date du putsch et du modus operandi. Le temps presse parce que le 29 juin, le chef de l'État algérien doit présider en grande pompe la conférence afro-asiatique à Alger. Le destituer après qu'il a paradé avec les chefs d'État d'Afrique et d'Asie est un exercice dangereux. L'opinion internationale et les puissances étrangères refuseraient de reconnaître la légitimité de nouveaux dirigeants arrivés au pouvoir par la force. Bouteflika suggère d'agir avant la tenue de ce sommet, puis de faire la tournée des ambassades étrangères pour justifier le coup de force. Il faut maintenant arrêter une date. Il faut éviter que cela ne suscite des manifestations au sein de la population. Même si beaucoup de leaders lui reprochent son autoritarisme et son pouvoir personnel, Ahmed Ben Bella jouit tout de même d'une certaine popularité. Le plan validé, il reste à donner un nom à la nouvelle instance appelée à remplacer son régime. Ce sera le Conseil de la Révolution. Il faut dire que le fossé se creuse entre Ben Bella et sa base, mais il semble ne pas en avoir conscience. Alger, 17 juin 1965. Ce matin, le chef de l'État prend son avion, l'Ilouchine offert par le président Nikita Khrouchtchev d'Union soviétique, pour se rendre en Oranie. Au programme, l'inauguration d'une route et d'un émetteur de télévision. Dans l'après-midi, il assiste au stade d'Oran au match de football Algérie-Brésil. Il faut dire que le football est une passion à laquelle il a consacré une partie de sa vie, notamment dans l'équipe de Marseille, comme je le disais tantôt. C'est à cette étape que les conspirateurs ont souhaité un moment l'interpeller avant d'y renoncer. Dans l'avion, le président est avec les journalistes, à qui il accorde une longue interview. Il évoque entre autres les options socialistes de sa politique, le rapport de proximité qu'il entretient avec les populations. Plusieurs grands absents dans ce voyage. Wari Boumdjène, Abdelaziz Bouteflika et Chérif Belkacem. Mais ici, il est chez lui en Oranie, non loin de la Marnial. L'ambiance est plutôt joyeuse. Au cours de ce voyage, Ben Bella, à qui on a encore une fois évoqué le danger qui pèse sur lui, le complot qui se prépare pour le renverser, dénonce de la tribune ces personnes qui passent l'essentiel de leur temps à décomposer la révolution. Ces traîtres qui veulent diviser les leaders de la révolution. Il s'en prend très violemment à la presse qui serait l'instrument de cette division.
Certains commentaires de presse, qui nous a habitués d'ailleurs, à ce genre de procédé, ce qu'ils appellent, ou ce qu'appelle cette presse, d'éventuels conflits qui existeraient au sein de la direction révolutionnaire en Algérie. Je voudrais répondre à cette presse et lui dire qu'une fois de plus, eh bien cette presse ment. Cette presse ment car en Algérie, il y a un régime et il y a une direction plus unie que jamais et plus décidée aussi que jamais à faire face aux complots d'où qu'ils viennent et surtout les complots extérieurs. Voilà ce qu'il y a dans notre pays.
Les propos sont clairs. Officiellement, il n'y a pas de division. C'est la presse qui ment. Ce soir du 18 juin, à son retour à Alger, le président Ahmed Ben Bella va accorder une interview à la presse internationale dans laquelle il parle essentiellement de la conférence des pays afro-asiatiques qu'il doit accueillir dans quelques jours.
Je pense que la conférence afro-asiatique, la conférence qui doit réunir les pays dits afro-asiatiques, devrait être conçue selon des facteurs de concept un peu plus larges. Je pense que les pays qui doivent venir là doivent être des pays qui ont les mêmes problèmes, qui ont les mêmes aspirations, qui poursuivent ensemble les mêmes buts. Et alors là, je pense que d'ici quelques temps, cette notion devrait s'élargir aux pays sud-américains. Peut-être pourquoi pas à d'autres pays qui viendraient là pour appuyer les postulats, les concepts de cette conférence.
Vendredi 18 juin, Ben Bella reçoit au palais du peuple les membres du gouvernement et les hauts gradés de l'armée. Le soir, à 21h, il convoque Wari Boumdjène à la Villa Jolie et évoque la réunion du bureau politique du FLN prévue le lendemain et le remaniement ministériel. Il s'en prend à certains ministres, affirme vouloir remplacer Bouteflika et envisage de nommer des technocrates dans son nouvel exécutif. Bref, il veut faire le ménage. Boumdjène s'y oppose. les deux hommes se séparent plus que jamais brouillés. Le colonel regagne alors ses bureaux au ministère de la Défense pour un dernier briefing avant de déclencher l'opération. Il donne ses consignes. L'arrestation de Ben Bella devra se dérouler en moins de 2 heures et sans effusion de sang. Dans le cas où il réussirait à s'échapper, l'armée prendra d'assaut toute ambassade qui lui offrirait l'asile. Celle du Maroc, située près de la résidence du chef de l'État algérien, est particulièrement surveillée. Bien qu'en froid avec le palais royal depuis la guerre des sables de 1963, Ben Bella n'oublie pas ses origines marocaines. Puis Wari Boumdien se tourne vers Taras Biri. « Il faut que ce soit toi qui l'arrête », lui dit-il. Minuit. Les chars de l'armée prennent position autour de la capitale. Les rares Algérois, témoins de la scène, pensent qu'il s'agit encore du tournage du film « La bataille d'Alger » de Gillo Pontecorvo. À la Villa Jolie, des officiers de l'armée algérienne, complices de l'opération et au fait du mot de passe de la soirée, prennent la relève de la garde rapprochée du président. Le samedi 19 juin, à 1h du matin, Tahas Biri et ses hommes montent les escaliers qui mènent à l'appartement du président, au 5e étage de la villa. Ben Bella est réveillé par des coups frappés contre sa porte et la voix du chef d'état-major de l'armée. Au nom du Conseil de la Révolution, j'ai l'ordre de vous arrêter sous l'inculpation de haute trahison. Nous avons constitué un Conseil de la Révolution. Tu dois nous suivre. Il ne t'arrivera rien. Le président s'habille et descend au rez-de-chaussée, menottes au poignet. Il monte dans une jeep pour rejoindre le sous-sol d'une villa à Hydra, sur les hauteurs d'Alger, secrètement. Boumdien, dans son quartier général, attend le rapport de ses hommes. Le téléphone sonne. Au bout du fil, le colonel Biri. Mission accomplie. À l'aube, l'armée du colonel Wari Boumdien vient de prendre le pouvoir. Les Algérois se réveillent avec des chars et des hommes en tenue de combat postés à tous les points stratégiques de la capitale. Les émissions habituelles de Radio Alger sont remplacées par la musique militaire et la diffusion de communiqués en boucle, en arabe et en français. Le président déchu y est qualifié de despote et de tyran. À 12h05, dans un message radiodiffusé, le colonel Wari Boumdien annonce la création d'un conseil de la révolution qui assume tous les pouvoirs.
Honorable peuple, un conseil de la révolution a été constitué et il a pris toutes les mesures nécessaires à la garantie de l'ordre et à la sécurité et veillera au fonctionnement des institutions et des services publics. Le Conseil de la Révolution œuvrera à réunir les conditions nécessaires à l'établissement d'un État démocratique et sérieux, basé sur des lois respectant les valeurs les plus hautes, autrement dit, un État pérenne qui ne disparaîtra pas avec la disparition des gouvernements et des individus. Les institutions de l'État et les organismes du parti fonctionneront dans l'harmonie et dans les limites de ses responsabilités sans porter atteinte à la légitimité de la Révolution. Et une fois que la situation se sera apaisée, le Conseil de la Révolution œuvrera à organiser l'économie du pays et le sortir du chaos dans lequel il pataugeait.
Du point de vue technique, le coup d'État a été mené de main de maître, sans difficulté ni bain de sang. À 12h05, dans un message signé du colonel Boumdien, ministre de la Défense du gouvernement Ben Bella, Radio Alger annonce la création d'un Conseil de la Révolution qui assume tous les pouvoirs. 1h30 plus tard, une escouade de censeurs s'abattent sur les agences de presse. Désormais, rien ne pourra plus être publié sans leur accord.
L'oppresseur croyait que tu t'étais laissé endormir dans un sommeil profond, mais les événements lui ont prouvé le contraire.
Les auteurs du putsch expliquent les raisons du renversement de Ben Bella. Ahmed Kaïd, un des membres du Conseil de la Révolution.
Qu'y a-t-il de changé? Sinon, la destitution d'un homme. Il a bouffé tout le monde. Je m'excuse encore de l'expression. Il s'est substitué à tout. Au Parlement, au Comité central, aux institutions, à la justice.
Mais ils sont un certain nombre à descendre dans la rue pour dénoncer ce coup de force, une certaine jeunesse.
Alger a connu sa première manifestation. On peut dire que depuis l'indépendance, c'est réellement la première manifestation populaire dans les rues d'Alger. Et cette manifestation d'hier soir était contre le colonel Boumediene. Ce qui s'est passé est assez difficile à expliquer. C'est peut-être une manifestation dirigée. En tout cas, vers 20h30, au bas de la place du gouvernement, il y avait à peu près 500 personnes qui ont défilé dans toute la ville. Du côté de la police, ça a été un petit peu la panique. Les policiers ne sont pas intervenus. Les manifestants ont jeté les poubelles par terre, ont crié. Et ensuite, l'armée est intervenue pour refouler tous ces manifestants. L'armée a même jeté des grenades lacrymogènes. Nous étions dans cette manifestation. Mais vous ne verrez pas ce soir ces images, car ces images ont été confisquées.
Boumediene ne votera pas le dictateur, pas le régime fasciste, Boumediene. Nous ne voulons pas la politique du Moyen-Orient, celle des militaristes de la Syrie. Nous voulons l'Algérie qui soit algérienne, pas militariste, celle de la Syrie, du général Hafez. Nous voulons pas ça.
Il faut absolument rassurer les populations. On est à seulement quelques jours de la conférence afro-asiatique qui va réunir à Alger de nombreux dirigeants du tiers-monde. Pas question donc que le rendez-vous soit annulé. Il faut mieux expliquer au peuple les raisons de ce que les auteurs refusent d'appeler un putsch militaire. Abdelaziz Bouteflika, l'un des putschistes, choisit le terme de correction.
Un conseil de la révolution a été créé. Il a pris toutes les dispositions pour assurer dans l'ordre et la sécurité le fonctionnement des institutions en place et la bonne marche des affaires publiques. Par ailleurs, il s'attachera à réunir les conditions pour l'institution d'un État démocratique, sérieux, régi par des lois et basé sur une morale. Un État qui saura survivre au gouvernement et aux hommes. Peuple algérien, l'Algérie est à la veille d'une conférence internationale, la plus importante qui puisse se tenir dans un pays du tiers-monde. Le prestige accumulé par notre révolution depuis le 1er novembre 1954, pour autant qu'il ait pu désigner notre capitale pour un tel rassemblement, ne nous fera jamais perdre de vue la confiance placée en notre pays par les peuples d'Asie, d'Afrique et d'Amérique latine. Mais les conjonctures internationales, si heureuses soient-elles, ne sauraient autoriser un homme à les exploiter cyniquement à des fins personnelles et au détriment de l'intérêt supérieur du pays.
Il était grand temps de situer le mal et de le circonscrire et de le dénoncer. Il était surtout nécessaire d'agir en mettant un terme à cette situation dramatique. Quelle que soit l'importance de sa mission, nul ne peut prétendre incarner seul à la fois l'Algérie, la révolution et le socialisme.
Les Algériens vont-ils laisser passer le renversement de leur président sans réagir plus énergiquement? Ce putsch sera-t-il accepté par les populations de l'intérieur, notamment de l'Oranie? Et la communauté internationale, notamment les pays afro-asiatiques qui s'apprêtent à venir pour un grand sommet ici, va-t-elle accepter ce changement de régime? Va-t-il accepter ce putsch qui touche l'un des leaders charismatiques du mouvement? S'achemine-t-on vers l'annulation de la conférence? Wari Boumediene parviendra-t-il à se faire accepter de tous en si peu de temps, en seulement quelques jours? On en parle dans une dizaine de minutes, juste après une nouvelle édition du journal sur Radio France Internationale, dans la suite de cette série d'archives d'Afrique spéciale Wari Boumediene. Restez à l'écoute et on se retrouve très vite.
Archives d'Afrique, Alain Foka.
Bonjour à tous et bienvenue dans ce magazine consacré à l'histoire contemporaine de l'Afrique à travers ses grands hommes. Nul n'a le droit d'effacer une page de l'histoire d'un peuple, car un peuple sans histoire est un monde sans âme.
Honorable peuple, un conseil de la révolution a été constitué et il a pris toutes les mesures nécessaires à la garantie de l'ordre et à la sécurité et veillera au fonctionnement des institutions et des services publics. Le conseil de la révolution œuvrera à réunir les conditions nécessaires à l'établissement d'un État démocratique et sérieux, basé sur des lois respectant les valeurs les plus hautes, autrement dit, un État pérenne qui ne disparaîtra pas avec la disparition des gouvernements et des individus. Les institutions de l'État et les organismes du parti fonctionneront dans l'harmonie et dans les limites de ses responsabilités sans porter atteinte à la légitimité de la révolution. Et une fois que la situation se sera apaisée, le Conseil de la Révolution œuvrera à organiser l'économie du pays et le sortir du chaos dans lequel il pataugeait.
Trois ans seulement après l'accession de l'Algérie à l'indépendance, celui que le président Ahmed Ben Bella présentait comme le cerveau de tous les complots contre lui, son ministre de la Défense, est finalement passé à l'action. Ce 19 juin 1965, anticipant sur la menace qui pèse sur ses proches et sur lui, Wari Boumdjian a mis aux arrêts le chef de l'État et pris sa place.
Septembre 1962, le colonel de l'armée de libération nationale algérienne qui avait assuré le triomphe de Ben Bella entrait à Alger. Dès lors, la foule pouvait souvent applaudir ensemble le président Ben Bella et le colonel Boumdjian, devenu en 1963 premier vice-président du Conseil. Et l'année dernière, pour l'anniversaire du 1er novembre, les deux hommes rendaient un hommage commun à l'ALN, devenue l'armée nationale populaire. Boumdjian vient d'éliminer Ben Bella, auquel est reproché son despotisme. Il l'a fait, fort de cette solide armée de 60 000 hommes et de 600 blindés, qu'il a su forger en quelques années. Et la vie à Alger suivait apparemment son cours. Le maréchal Amer, envoyé du président Nasser, était reçu par M. Boumdjian, entouré de M. Bouteflika, Mohamedi, Belkacem et Boumaza. Surpris par la rapidité de l'événement, le monde pourtant s'interroge. Qui est et que veut Boumdjian ?
Suite de notre série d'archives d'Afrique consacrée à Wari Boumdjian, le second président de la République d'Algérie, Ahmed Kaïd, membre du Conseil de la Révolution.
Qu'y a-t-il de changé ? Sinon, la destitution d'un homme, il a bouffé tout le monde. Je m'excuse encore de l'expression. Il s'est substitué à tout, au Parlement, au comité central, aux institutions, à la justice.
Alger a connu sa première manifestation. On peut dire que depuis l'indépendance, c'est réellement la première manifestation populaire dans les rues d'Alger. Et cette manifestation, hier soir, était contre le colonel Boumdjian. L'armée est intervenue pour refouler tous ces manifestants. L'armée a même jeté des grenades lacrymogènes.
Boumdjian ne votera pas le dictateur, pas le régime fasciste Boumdjian.
Si dans un premier temps, une partie de la rue, notamment des écoliers et des lycéens, réagit plutôt vivement au renversement de Ben Bella et à l'arrestation de quatre de ses collaborateurs, très rapidement, les militaires vont ramener un certain calme. Or, ces quelques manifestations sporadiques durant les jours suivants, notamment à Annaba, dans l'ex-Bonne, où l'on signalera quand même une dizaine de morts à la suite de sanglants affrontements avec l'armée, le coup d'État ne soulève que l'indifférence d'une population apparemment moins attachée, qu'on ne le disait, à ce président dont le verbe avait su si souvent la soulever. La Casbah, notamment, restera calme. Or, durant trois ans, les habitants de ce quartier, où Ben Bella a toujours su mobiliser les siens, ont vibré à ses accents, l'ont accompagné dans ses grandes fresques et ont applaudi à ses initiatives.
Est-ce que vous êtes optimiste pour l'avenir de l'Algérie aujourd'hui ?
Bien sûr qu'on est optimiste étant donné les communiqués actuels. On reste dans la confiance étant donné que les principes fondamentaux n'ont pas changé.
Je pense personnellement que ni Boumdjian ni Ben Bella ne représentent l'Algérie. C'est un conseil de la révolution.
Ce que vous voulez dire, c'est que Boumdjian peut arriver à devenir, disons, un second Ben Bella ?
Non, je pense pas, non. Je crois qu'il lutte pour ça. J'espère que Boumdjian suivra la politique qui a été tracée au congrès de Tripoli et réaffirmée par la charte d'Alger. Enfin, qu'il continuera à œuvrer pour l'Algérie, une Algérie socialiste.
Vous êtes étudiant, non ? Je voudrais vous demander ce que les étudiants pensent de ce qui s'est passé à Alger. Là.
C'est pour qui ?
C'est pour la télévision française.
Eh bien, je peux vous dire que les étudiants, ils passent beaucoup de mal.
ce qui s'est passé là.
Beaucoup de mal.
À mon avis.
Vous étiez favorable à Ben Bella ?
Dans l'ensemble, les étudiants étaient favorables à la politique qui est amenée ici.
Et là, vous considérez que cette prise de pouvoir du colonel...
réactionnaire.
Qu'est-ce que ça veut dire, réactionnaire ?
Typiquement fasciste par la manière dont ça s'est fait.
Fasciste dans la manière, mais peut-être pas fasciste dans les
comme ça part, fasciste dans la manière, les prolongements obligatoirement suivent. Mais qu'à voir, les bourgeois se réjouir. Faites un tour parmi les commerçants, vous verrez.
Il faut rassurer les populations, leur expliquer les raisons de ce changement. Abdelaziz Bouteflika, le ministre des Affaires étrangères, est très proche de Wari Boumdiène, est à la manœuvre.
Toutes les institutions du parti et de l'État restent en place. Le gouvernement continue. C'est le colonel Boumdiène qui continue. Et le Conseil de la Révolution prend, comme vous l'avez signalé, toutes les destinées de l'État.
Il n'y a pas de chef de l'État.
Le colonel Boumdiène est président du Conseil de la Révolution.
Vous restez ministre des Affaires étrangères ? Vous prenez un autre secteur en plus ?
Non.
Avec M. Ben Bella, c'est tout de même un chef historique qui disparaît.
Il n'y a que le peuple algérien qui soit historique et qui peut prétendre à cela. Les hommes sont devenus des figures extraordinaires grâce au sacrifice consenti par le peuple algérien tout entier. Et grâce aussi au sacrifice de notre 1,5 million de morts.
Est-ce que M. Ben Bella sera jugé ?
C'est une affaire du Conseil de la Révolution qui décidera de ce qu'il faudra faire.
Pas question donc de dire ce qu'il va advenir du président déchu. Il ne faut pas effaroucher ses partisans. Dans le même temps, le nouvel homme fort assure son armée et redéfinit son rôle. Wari Boumdiène n'est pas officiellement le président comme on vient de l'entendre. Wari Boumdiène.
En plus de la défense territoriale, notre armée aura une mission à accomplir, c'est-à-dire la participation effective à la construction de notre pays.
Il faut coûte que coûte rassurer la communauté internationale, notamment les dirigeants d'Afrique et d'Asie que l'on attend à Alger dans les prochains jours pour un grand sommet. Pas question de parler de putsch. Le terme est proscrit. Abdelaziz Bouteflika et les proches du nouveau régime parlent de correction.
Monsieur Bouteflika est le plus jeune ministre des Affaires étrangères du monde. J'ai pu l'approcher sur le terrain d'aviation de Maison-Blanche. Monsieur le ministre, après le putsch du colonel Boumdiène, on peut dire la conférence d'Alger aura lieu.
Je voudrais d'abord rectifier ce que vous venez de dire. Vous avez parlé de putsch. Il faudrait qu'il soit absolument entendu que dans ce pays, l'armée nationale populaire est la fidèle et digne héritière de l'armée de libération nationale.
Mais Monsieur Ben Bella a été renversé tout de même.
Dans ce pays, il n'y a pas une seule famille qui n'ait eu un fils, un père, un parent dans l'armée de libération nationale. C'est vous dire que nous sortons des entrailles du peuple, que nous appartenons profondément à ce peuple et que rien ne nous séparera de ce peuple. C'est dire aussi que le terme putsch est un terme tout à fait impropre. Je dis bien tout à fait impropre parce que sur le plan des options, la révolution continue. Elle doit plus que jamais continuer.
Anissa Boumdiène, l'épouse du président.
Les coups d'État se sont multipliés dans tout le monde arabe, c'était ça donc. Bon, mais pour Boumdiène, c'était un redressement révolutionnaire.
Sid Ahmed Ghazali, ancien premier ministre algérien.
Il a fait un coup d'État ouvert. Il a mis un chef d'État élu en prison. Il a dissous l'Assemblée nationale. Il a gelé la Constitution. Et il a installé un pouvoir qui s'est dénommé lui-même pouvoir révolutionnaire. Ce qui, en termes politiquement corrects, c'est-à-dire je suis un pouvoir dictatorial.
Ahmed Ben Bella explique les circonstances de son renversement quelques décennies après.
Boumdiène était un homme tout à fait ordinaire durant la guerre. C'est moi qui suis allé le voir à Al-Azhar, l'université du Caire, pour le convaincre de rentrer, et il est rentré. Il n'a pas eu de poids durant la révolution et n'était pas un militant au sein du parti du peuple algérien. La révolution ne nous est pas tombée du ciel. Il s'agit d'un militantisme qui a duré de 1926 à 1954. Nous avons milité pendant 28 ans. Ce n'était qu'un homme, un étudiant d'Al-Azhar. Moi, j'ai fait la guerre et j'étais l'un de ses principaux dirigeants. Puis je suis devenu président de la République par la nature des choses. Et je ne suis resté au pouvoir que 2 ans et demi. Je pense que sans Boumediene, cela se serait passé différemment. Les États-Unis ont tout fait pour que Ahmed Ben Bella ne reste pas au pouvoir. Je n'ai jamais été séduit par les États-Unis et je ne les apprécie toujours pas de nos jours, car je vois le mal en eux. Les premiers à avoir soutenu le coup d'État étaient les États-Unis. Je n'avais pas anticipé parce que des rumeurs me parvenaient chaque jour sur d'éventuels coups d'État. Il y avait des problèmes entre nous, mais je peux vous dire que je n'ai pas eu d'altercation avec lui. Nous avions des rapports cordiaux. Je n'envisageais pas de l'éloigner du cœur du pouvoir. Nous travaillions sur un projet extraordinaire, qui était celui de la création d'un nouvel ordre mondial. Après 6 mois de négociations, nous étions tombés d'accord avec Nasser, le président égyptien, et environ 60 États pour annoncer la création d'un nouvel ordre mondial qui ferait face à l'autre monde. Nous voulions être prêts à négocier.
Les explications de Boumediene quelques années après son putsch.
Le 19 juin, pour moi, c'était une sorte de réajustement révolutionnaire. Oui. On a qualifié le 19 juin de coup d'État. Je n'arrive pas à suivre une certaine logique, parce que les mêmes forces qui ont installé le pouvoir qui a été qualifié avant le 19 juin de pouvoir socialiste, ce sont ces mêmes forces qui ont pris leur responsabilité le 19 juin pour apporter un correctif. Je dis, l'Algérie, à cette époque-là, à ce moment précis, avait besoin d'une équipe d'hommes qui connaissent la réalité, qui n'a pas été déphasé, donc n'a pas été éloigné du terrain du combat, qui a connu une certaine continuité dans l'action. Une équipe qui était en mesure de dire non et d'imposer certaines mesures de redressement.
Après la prise du pouvoir par le colonel Boumediene, Alger apparemment a retrouvé son calme. Cependant, les réactions provoquées par le coup d'État ne seront pas restées sans lendemain. La bombe qui a explosé au club des Pins, faisant officiellement 10 blessés légers, aura contribué à faire éclater la seconde conférence afro-asiatique. Il n'aura pas fallu plus de 57 secondes au comité préparatoire, réunissant les représentants de 12 pays, pour décider d'ajourner la conférence. Le second Bandung se tiendra le 5 novembre à Alger. Ces événements ne semblent pas affecter outre mesure la population, une population qui a l'air d'apprécier par-dessus tout les charmes de l'été.
Après ce report de la conférence des pays d'Afrique et d'Asie, ce second Bandung, comme l'appelait une bonne partie de la presse, l'heure est à la reprise en main des affaires. Il faut surtout rassurer le partenaire principal, Paris. La France, qui sent vouer une affection particulière à Ahmed Ben Bella, s'interroge sur ce nouvel homme fort, ce colonel discret qui préfère parler l'arabe à la langue de Molière, qui n'a jamais été en faveur des accords d'Évian, qui n'est pas spécialement pour le maintien des accords pétroliers qui lient les deux pays. Seulement, l'heure est à la réelle politique. Abdelaziz Bouteflika, le jeune ministre des Affaires étrangères, travaille dans le sens de rétablir ou d'établir la confiance.
La coopération avec la France est un principe fondamental dans notre politique extérieure. Nous entendons non seulement continuer la coopération, mais aussi la renforcer et de plus en plus moraliser notre expérience avec la France, d'autant plus que nous la considérons comme une expérience à la fois originale et combien exaltante dans une expérience qui constitue un exemple remarquable dans les rapports entre grandes puissances et petites puissances.
La vérité est que je suis un militant révolutionnaire. Simplement un militant révolutionnaire.
Le style du nouveau président, qui a conservé son portefeuille stratégique de la défense et qui s'est ajouté celui du Premier ministre, mais aussi celui du président du Front des Libérations Nationales, tranche avec celui flamboyant de son prédécesseur. Mais sous cet air austère, timide, fragile, frileux et taciturne, se cache une détermination à toute épreuve. Wari Boumediene est animé d'une farouche volonté de changer le système.
Pour moi, l'importance, c'est-à-dire la mission,
La mission a beaucoup plus d'importance que le titre. Je ne suis ni un anti-français, ni un anti-occidental.
Rapidement, Wari Boumdjian va rentrer dans la peau du chef. S'il donne l'impression de travailler de façon collégiale, dans la réalité, c'est lui qui décide de tout. Lardar Brahimi, ancien ministre des Affaires étrangères d'Algérie.
Au début, il voulait se montrer comme le contraire de Bumbella. Caché, tout seul, c'est ça l'image qu'il a voulu donner de lui-même. Mais je crois qu'on a assez rapidement vu que c'était une tête bien faite.
Il s'est fixé trois objectifs. Construire l'État, parfaire l'indépendance politique par la récupération des richesses nationales et poser les bases du développement économique et culturel. C'est au pas de charge qu'il avance, à pas forcé. Pas question d'accepter la contestation ou l'opposition. Les plus récalcitrants sont au mieux écartés et au pire éliminés comme l'un des leaders indépendantistes, Mohamed Rida, tué dans une rue de Madrid en 1965. Bachir Boumaza, le ministre du Travail et de l'Économie de 1962 à 65.
En Algérie donc, une tentative de coup d'État localisée a avorté la nuit dernière. Le président Boumédienne, qui a décidé ce matin d'assurer personnellement le commandement de l'armée, l'a annoncé tout à l'heure dans une allocution radio-télévisée captée par nos services techniques.
Peuple algérien, le complot a échoué. Notre révolution a triomphé de toutes les entraves et elle reste fidèle à son idéal qui se résume dans la justice et la paix. Notre révolution triomphe aujourd'hui comme elle triomphera demain sur tous les criminels. Le défi lancé au génie d'un peuple dans sa totalité ne restera pas impuni. Le châtiment sera proportionnel aux responsabilités.
Une des premières initiatives de Wari Boumdjian consiste à faire siéger l'ensemble du gouvernement dans les chefs-lieux des provinces les plus négligés jusqu'alors. À chaque fois, des programmes spéciaux sont lancés en vue d'amorcer le processus de développement. Une idée qui va de plus en plus le rendre populaire auprès des masses paysannes. Ainsi, à Tizi Ouzou, il prend son premier bain de foule. Mais cette popularité grandissante ne lui vaut pas que des amis.
Le pouvoir personnel de M. Boumédien était autrement plus fort, plus important, plus implanté que celui de Bembella. Ce qui fait qu'un an et demi après, je suis parti parce que nous avons renversé un homme pour le pouvoir personnel et voilà qu'on pratique du bembellisme sans Bembella.
Des têtes vont tomber. Ce qui va permettre à Boumdjian d'accélérer la purge, mais également son vaste programme, comme nous le verrons la semaine prochaine, dans la suite de cette série d'archives d'Afrique que nous lui consacrons. Sa croisade ne fait que commencer. Il a l'intention de redonner à son peuple sa dignité, de récupérer ses richesses nationales, son pétrole, mais également son gaz. Une aventure périlleuse dans cette période de guerre froide. Va-t-il y parvenir? La France le laissera-t-elle faire? Rendez-vous la semaine prochaine pour en parler. Mais vous pouvez évidemment d'ores et déjà réécouter cette émission sur le site de RFI ou sur archivesdafrique.com ou tout simplement sur votre téléphone portable en téléchargeant gratuitement l'application Archives d'Afrique sur iOS ou sur Android. Vous y retrouverez également tous les personnages marquants de l'histoire contemporaine de l'Afrique dont nous avons parlé. Vous pouvez dans le même temps réagir sur notre page Facebook, la première sur notre radio, avec ses 580 000 amis. Nicolas Benita, Delphine Michaud et Alain Foucault, nous vous donnons quant à nous rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même fréquence, pour la suite de la série d'archives d'Afrique consacrée à Wari Boumdjian. Restez à l'écoute de Radio France Internationale. À très vite.